Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Et bonjour prof Patrick.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
En arrivant, je viens de m'apercevoir que notre chronique prof Patrick a 2 ans, figure-toi.
Ouais.
Il y a 2 ans, mai 2020, fin du confinement, hop, on lance cette chronique, donc c'est bien. Et je me permets aujourd'hui, au bout de 2 ans, une chronique qui sera une sorte de billet d'humeur. Voilà, c'est la première fois, hein.
Eh bien, avec plaisir.
Mais elle s'appelle aussi, billet d'humeur, et si on parlait des sciences économiques et sociales au lycée.
Donc on reste dans le thème.
Ouais, quand même. La semaine dernière, les élèves de terminale ont passé leurs épreuves écrites de spécialité, mercredi et jeudi dernier. Parmi ces épreuves de spécialité, l'épreuve de sciences économiques et sociales a fait couler beaucoup d'encre. En effet, le sujet du deuxième jour comprenait un certain nombre de questions étonnantes. Alors étonnante pourquoi ? Parce qu'elle contraignait les élèves à répondre en faisant l'éloge de l'idéologie économique libérale sans leur laisser la moindre marge de manœuvre pour opérer une mise en perspective et élargir le point de vue. Alors je vais citer les 4 questions en débat en quelque sorte et après on commente un peu. Première question, à l'aide de 2 arguments, vous montrerez que le travail est source d'intégration sociale. Deuxième question, à partir d'un exemple, vous montrerez que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Troisième question, à l'aide d'un exemple, vous montrerez que l'action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale peut produire des effets pervers. Et quatrième question, qui est une question plus large parce qu'elle donne lieu à une sorte de mini-dissertation. À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que l'approche en termes de classe sociale, pour rendre compte de la société française, peut être remise en cause. Alors, le problème, c'est que chacune de ces affirmations est discutable et aurait gagné à être discutée. D'accord ? Alors, petit commentaire, petite illustration de cette affirmation. Reprenons-les une par une. Vous montrerez... Oui, tu voulais dire ?
La question 2, il me semble qu'on a eu une chronique la semaine dernière.
Exactement.
Qui expliquait que... pas tant, quoi.
T'as bien compris, ouais. La question 2, vous montrerez que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Ben, chers auditeurs, retournez voir, enfin, écoutez la chronique de la semaine dernière qui disait réchauffement climatique, pourquoi l'innovation ne nous sauvera pas à temps.
Ouais.
Concernant la question 1, vous montrerez que le travail est source d'intégration sociale, oui, mais il peut être source aussi d'aliénation, hein, pour des conditions de travail terribles et dans certains types d'emploi, de non-intégration sociale. Question 3, vous montrerez que l'action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale peut produire des effets pervers, oui, mais produit aussi des effets positifs. Et enfin, la dernière question, vous montrerez que l'approche en termes de classe sociale pour rendre compte de la société française peut être remise en cause. C'est vrai, il y a une vraie réflexion, mais malgré tout, l'approche en termes de classe sociale garde une pertinence assez forte sur certains aspects. Vous voyez, donc en fait, le problème, c'est que ces questions auraient gagné à être traitées en forme de question plus ouverte, en quelque sorte. Et c'est possible, la preuve, sujet d'économie de la filière STMG, cette fois-ci au bac cette année, 2 exemples. Première question, l'intervention de l'État permet-elle de soutenir l'emploi ? On peut y répondre de façon riche, oui, mais, par exemple. Ou le deuxième question, le PIB, produit intérieur brut, permet-il de mesurer la richesse d'un pays et de ses habitants ? Là aussi, on peut y répondre, oui, mais. Voilà. Donc, pour revenir aux sciences économiques et sociales, et pour être complet, on peut remarquer que le sujet du jour 1, parce que là je parlais des sujets du jour 2, comprenait des questions tout aussi critiquables, alors moins nombreuses, il y en avait juste 2, mais dans le spectre politique opposé. Je vais les citer. C'était 2 questions qui portaient sur l'analyse d'un graphique et qui demandaient aux élèves, à l'aide des données du document, montrer que la redistribution améliore la situation économique des plus pauvres. Puis 2e question, toujours sur le même document, montrer comment la fiscalité et la protection sociale réduisent les inégalités de niveau de vie. Là encore, aucune place pour une analyse un petit peu ouverte, dialectique. Bon, une fois qu'on a dit ça, Mathieu, on pourrait s'arrêter là et dire « bon, c'est un fait divers et puis demain, on n'y pensera plus
ouais. ».
D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est de situer le contexte qu'il y a derrière. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Le contexte, c'est celui d'une lutte acharnée qui remonte à plus de 30 ans entre des économistes, certains économistes orthodoxes libéraux, donc, contre les programmes de sciences économiques et sociales au lycée. Selon ces économistes orthodoxes, ces programmes sont, disons-le franchement, trop de gauche, trop à gauche. Voilà. Alors pourquoi ? Ben parce qu'ils privilégieraient la macroéconomie, qui est forcément keynésienne, donc forcément de gauche. Ils incluent, horreur malheur, de la sociologie et des sciences politiques, forcément de gauche. Et ils sont enseignés par des profs, forcément de gauche. Voilà, donc amis des stéréotypes, bonjour. Nos économistes libéraux et lobbyistes, je dirais, font un travail de fond depuis 30 ans pour... faire modifier les programmes de SES, ils y sont arrivés, notamment la réforme de 2018 qui a été dénoncée assez vigoureusement par pas mal d'associations d'enseignants, dont je vais citer un extrait d'un texte de l'APSES, l'association des professeurs de SES, qui critiquait quand ces programmes, qui sont les programmes actuels de 2018, sont sortis. Il disait ces programmes sont structurés sur une séparation disciplinaire rigide qui cloisonne pour l'essentiel l'économie et les autres sciences sociales et qui interdisent des regards croisés. Même s'il y a deux chapitres, regards croisés. Ces programmes tendent à n'apporter que des réponses figées qui nient la réalité des débats scientifiques et démocratiques sur certains sujets et donc interdisent de saisir les grands enjeux qui traversent nos sociétés contemporaines. Ces programmes ne sont pas pluralistes, ils imposent de transmettre une seule grille de lecture des enjeux économiques et sociaux. Ces programmes sont bien trop volumineux et excessivement techniques souvent, d'accord ? Ce qui fait qu'ils ne laissent pas le temps suffisant aux apprentissages, et ils risquent d'induire des pratiques d'évaluation qui font moins appel à l'esprit critique des élèves et moins appel à leur capacité de réflexion et d'argumentation. Ouais. Et tu vois, cette dernière phrase, et ben elle est très importante parce que c'est exactement ce qu'on est en train de voir dans les questions que j'ai citées. Les questions de l'épreuve de bac de SES sont la conséquence logique. On réduit le périmètre de pensée des élèves par le mot magique « vous montrerez ». Ouais. D'accord ? Il ne s'agit pas d'apprendre à l'élève à penser, il s'agit de l'amener à régurgiter un discours qui est le programme, un discours officiel, le doigt sur la couture du pantalon comme un bon petit soldat.
Ouais, compris ou pas, si ça a pris par cœur, ça marche.
Voilà. Alors que cette réforme soit une des œuvres de M. Blanquer, ministre de l'Éducation, n'est pas une surprise. Je mettrai en lien la chronique qu'on a faite en novembre dernier sur les obsessions idéologiques de ce monsieur. Et que les lobbyistes libéraux aient obtenu gain de cause sous François Hollande puis Macron n'est pas non plus une surprise, après tout. Apprendre à penser est une condition de départ au bon exercice de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, la conception que M. Macron s'en fait, n'est pas vraiment celle d'un libre exercice de la pensée critique. Pour rappel, deux chroniques que je mettrai également dans le podcast, qu'on a faites en mars dernier, sur le bilan Macron, du quinquennat Macron pour ce qui est de la liberté d'expression, c'est assez édifiant. Je rappelle juste une phrase qu'on avait citée de M. Macron lors d'une interview en janvier 2022, « Un irresponsable n'est plus un citoyen ». Tu te rappelles, cette phrase avait fait sauter au plafond des politologues et des juristes parce qu'elle signifiait que le président de la République s'arrogeait le droit de prononcer une forme de déchéance de citoyenneté à toute personne dont il ne partage pas les opinions sur tel ou tel sujet. Bref, chers auditeurs, si vous ne voulez pas être traité d'irresponsable à votre tour, vous savez ce qu'il vous reste à faire, réciter le catéchisme officiel. J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick. À tout bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.